Merci Seigneur pour ta présence, un privilège Seigneur. Vraiment un privilège que tu sois au milieu de nous Seigneur pour agir, pour manifester Seigneur ta gloire Seigneur dans chacune de nos vies. Je te remercie Seigneur de ce que tu sois au milieu de nous Seigneur pour transformer nos cœurs, pour les diriger vers ta parole Seigneur, qu'un esprit de bonne volonté Seigneur puisse nous soutenir et que cette parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Pour accomplir parfaitement toute ta volonté, parce que je sais que ta parole ne revient jamais à toi sans l'avoir accomplie parfaitement. À moi, Seigneur, d'être disposé. À moi, Seigneur, d'être à ton écoute, d'être prêt à faire ce que tu désires que je fasse pour la gloire de ton nom et dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que c'est un moment particulier, la louange. Il y a des gens, ils sont très sensibles à la présence de Dieu. Moi, pas spécialement. Mais ça ne change rien. Un jour, je me rappelle, il y a un pasteur qui disait « Ouais, moi, il faut que je ressente la présence de Dieu. » Il y a un autre pasteur qui disait « Moi, je ne la ressens pas. » Mais je peux vous assurer une chose, c'est que Dieu était dans sa vie. Et ça, c'est merveilleux. Mais ce matin, c'était, pour moi, c'était vraiment un moment spécial. J'aurais voulu que ça dure. Que Dieu eh bien, continue à déverser son amour, sa grâce, sa bonté. C'est des moments comme ça privilégiés où Dieu pose sa main sur moi et sur chacun de nous. La première fois que j'ai rencontré Dieu, je dis toujours, c'est comme si on m'avait branché une pompe à chaleur sur la tête. J'avais déjà plus de cheveux, donc ce n'était pas un problème. Mais je me suis dit, des fois, ça peut jouer pour que ça ne repousse pas. Mais est-ce que je m'en rappelle toujours, surtout ? J'étais dans cette chambre à genoux, il n'y avait personne, c'était au milieu de la nuit. Et je me rappelle d'être là. D'avoir dit à Dieu qui se révèle à moi, parce que je ne le connaissais pas, j'avais une religion comme beaucoup de personnes peuvent avoir. Et là, j'étais dans cette chambre et je n'arrivais pas à dormir. Alors j'avais dit à Dieu, ben, tu vois Seigneur, si tu peux me faire dormir, fais-le. Ça, c'est une grosse prière ça. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je me suis endormi. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais au milieu de la nuit, j'étais réveillé et ça, c'est me resté dans ma tête. Il y a plus de 30 ans en arrière, Dieu me disait « Raymond, prie ». J'ai dit « Oh, aïe, aïe, qu'est-ce qui t'arrive là ?» Ça, c'est jamais fait ça, si ce n'est des prières qu'on m'avait apprises quand j'étais enfant. Et cette fois, elle insistait, elle disait « Raymond, prie ». Et moi, je suis quelqu'un qui a du mal à me lancer, mais quand je réfléchis, ça marche. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement Raymond, tu as demandé à Dieu de te faire dormir, il a le droit de te demander de prier. Voilà, ça c'était ma réflexion. Donc j'étais dans mon lit, j'avais ma couverture jusque là, j'avais les bras comme ça, je n'osais pas bouger, et j'ai dit, Dieu merci. Et en même temps, la même voix qui me disait, lève les mains. Je dis, oh là là, tu deviens fou là. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais vu ça. Et donc, j'ai levé mes petites mains comme ça, c'était, oui. Et franchement, c'était tellement fort. Je dis, c'est comme si on m'avait branché une pompe à chaleur sur la tête. Mais j'étais rempli de l'amour de Dieu, des vagues, comme ce matin, des vagues qui venaient dans ma vie. Et je suis descendu de mon lit, je me suis mis dans cette chambre, tout était noir. Et c'est une chose que je ne peux jamais oublier, c'est que j'avais les yeux fermés. Je dis, Raymond, si tu ouvres les yeux, t'es mort. Et ça... Je savais qu'il y avait toute une lumière autour de moi. Je voyais, vous savez, quand vous avez les yeux fermés, que vous êtes dans la lumière, vous regardez la lumière, ça fait un petit halo, un petit aura autour. Et je voyais toute cette lumière autour de moi. Et j'ai dit, je ne peux pas ouvrir les yeux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je sais une chose, c'est que mes cheveux n'ont pas repoussé. Et surtout, que Dieu ne m'a jamais lâché. Jamais. Et je sais que je me rappellerai toujours de cette expérience. Parce que Dieu ne me lâche jamais. Il est toujours présent, comme ce matin on dit que Dieu est présent au milieu de nous quand on est rassemblés. C'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais on a besoin qu'il nous le rappelle, qu'il nous le montre, qu'on puisse le sentir, qu'il est là au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais vous rappeler juste ce qu'on avait dit ces deux derniers dimanches. Le premier dimanche, juste après Nouvel An, on a pris ce dimanche, c'était « Je m'engage ». Je m'engage dans cette année 2019 à mettre en avant la priorité de prier pour le salut de ceux que j'aime. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a mis sur le cœur de cette prière, la prière de l'Église et du Saint-Esprit dans l'Apocalypse, juste avant que le Saint-Esprit s'en aille, parce que c'était la dernière prière du Saint-Esprit dans la Bible. Cette prière où il dit « Viens, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». C'est la dernière prière que l'on voit. Après que le Saint-Esprit, il intercède pour nous, il n'y a aucun problème. Mais cette prière-là, elle est écrite. Et quand je prie, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Alors, c'est tellement fort que je me dis, oui Seigneur, je veux que tu viennes bientôt, mais pas tout de suite. Je voudrais encore prier pour ma famille, je voudrais encore prier pour mes amis, je voudrais encore prier pour ceux eh bien, qui m'entourent afin qu'eux aussi soient sauvés. Et ça me pousse, chaque fois que j'entends cette prière, chaque fois que je me rappelle ce verset, ça me pousse à prier pour ceux que j'aime, à mettre cette priorité de prier pour le salut de ceux que j'aime, à m'engager, à me tenir prêt, parce que Jésus va venir bientôt, amen. À me préparer à être belle, je dis belle, B-E-L, non, belle, je dis belle, pourquoi ? Parce que je suis l'épouse de Christ. Alors je vais me préparer à être belle en tant qu'épouse. Une épouse, quand elle va se marier, elle se pouponne. Elle se fait belle, un gars, c'est pas pareil. Mais une fille, waouh, faut pas la voir, faut rien du tout. Le gars, lui, c'est pas le problème. Mais la fille, elle se fait belle. Elle se met à l'écart, elle se pouponne, elle se dit, voilà, c'est formidable. Ben moi, je veux me préparer à être belle pour le Seigneur. En tant qu'épouse de Christ, je m'engage, Seigneur, à te remettre au centre de ma vie, au centre de l'Église. Je m'engage à passer du temps dans ta présence. Je m'engage à rechercher ta face. Je m'engage à connaître ta volonté. Je m'engage à chercher à te plaire dans mon comportement de tous les jours. Je m'engage, Seigneur, à rechercher le donateur plutôt que le don en lui-même. Souvent, on veut le don, on veut les choses, alors que c'est tellement bon d'avoir, eh bien, le donateur. Moi, c'est des petites choses dans la vie qui disent, je veux bien avoir le beurre et l'argent du beurre, mais le mieux, c'est quand même d'avoir la crémière. Parce qu'on a tout. On a tout. Et c'est comme ça que Dieu nous dit. Il dit, mais c'est moi que tu dois avoir. Le reste, tout appartiendra. Amen. Je m'engage à marcher sur le chemin de la sainteté en passant du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Je m'engage à ramener la prière au centre de ma maison. Je m'engage à ramener la prière au centre de mon foyer. Je m'engage à parler de toi. Je m'engage à te servir. Je m'engage à être amoureux de toi. Amen. Je m'engage. C'est des engagements. On l'a fait en début d'année, encore jusqu'au mois de janvier, on peut encore le faire. On peut se rappeler nos engagements. Et puis, la semaine passée, on avait cette conviction que Jésus est en nous. Parce que lorsque je lui demande d'entrer dans ma vie, il est en moi. Jésus est en moi et je me pose cette question. Le message de la semaine passée, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» ou hashtag QFJAMP. QFJAMP, hashtag QFJAMP. « Que ferait Jésus à ma place ?» Et quand je considère les défis qui se présentent à moi, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? C'est vraiment un défi. Quand je considère l'engagement pour lequel, eh bien, ça craque pas, non ? Si, ça craque, hein, j'ai l'impression de marcher sur je ne sais pas quoi. Ah, c'est moi qui fais ça. J'ai cru que c'était le sol. Parce qu'à chaque fois que je marchais... Je joue avec le câble. Je vais jouer avec le micro. C'est mieux qu'avec le câble. T'es formidable. David, c'est un gars exceptionnel. Lui, il me lâche pas. Hein. Merci, David. Vous pouvez l'applaudir. Et quand je considère tous les défis qui se présentent à moi, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer de vie. Et c'est le titre du message de ce matin. Je veux changer de vie. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. J'ai besoin d'un changement dans ma façon d'agir, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler même. J'ai envie de changer pour tenir mes engagements. J'ai envie de changer pour être semblable à Christ, pour faire comme il aurait fait à ma place. Quand je pense à cette question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Ça, c'est un challenge. C'est un drôle de challenge. Parce que quand j'entrevois un petit peu ce que Jésus aurait fait à ma place, je me dis, waouh ! Eh bien, on est mal, hein ? Il y a besoin d'un réel changement dans ma vie. Parce que Dieu me montre les choses. Et je le sais, Dieu ferait peut-être ceci ou cela. Et il me le montre. Et moi, je dis, il faut aller jusque-là. Tu es sûr? Mais j'ai envie de te plaire, Seigneur. Alors j'ai besoin de changer. Face à la maladie, comment je réagis? Face à mon addiction, l'alcool, le tabac, comment je réagis? Face à mon caractère, face à mes problèmes du quotidien, face au pardon que j'ai à donner, face à ce que je vis aujourd'hui dans l'état où je me trouve, c'est-à-dire dans mon foyer, sur mon lieu de travail, dans l'église même. Qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, à ma place? Ce n'est pas des choses qui sont simples. Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas facile. J'ai besoin de changer. Moi. Est-ce que votre voisin a besoin de changer? Ben, si vous êtes marié, tout ça, il n'y a pas de problème, vous le savez. Ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Hein. On se le répète souvent. Mais c'est tellement édifiant. C'est tellement formidable. Dans la Bible, il y a cet exemple de la femme qui est prise en flagrant adultère, en flagrant délit d'adultère. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, on va lire ce passage, Jean chapitre 8, au verset 1. Il est écrit, donc on va lire au verset 3. Jésus est devant le temple, donc. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Comment j'aurais réagi à la place de Jésus ? D'un côté, il y a la loi. Et la loi, elle dit dans Deutéronome, au chapitre 22, au verset 22, « Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » D'un côté, il y a la loi. Et d'autre côté, il y a le droit, la justice. Pourquoi ? Parce que je me dis, mais avant d'accuser cette femme, ben moi, si j'avais été à la place de Jésus, hein, j'aurais dit, avant d'accuser cette femme, ça serait peut-être bien d'amener le mari. Ça repousse les choses. Hein. Enfin, c'était surtout dans ce truc-là, en disant, le temps qu'il retrouve le mari, ça va passer du temps, on n'y pensera plus, cette question sera mise de côté. Moi, j'aurais réagi comme ça. Peut-être pas vous. Mais moi, ça aurait été ma façon de réagir. Et puis, j'aurais parlé. J'aurais dit, oui, voilà, la loi, ceci, cela, et puis bref. Mais, et la facilité, elle aurait été de s'en tenir à la loi. Parce que la loi, elle est là. La loi, elle dit, lapider, on n'en parle plus. Ça aurait été tellement plus simple. Mais moi, est-ce que j'aurais eu le courage d'affronter ces religieux ? Est-ce que j'aurais eu le courage de placer chacun face à son péché ? J'ai besoin de changer, hein. Il y a des choses à changer dans ma vie, mon caractère, ma façon de réagir, de voir les choses comme Dieu pourrait les voir. On fait tous des erreurs, vous comme moi. On commet tous des fautes. On est blessé, on est meurtri dans notre chair, on est meurtri dans notre orgueil et on réagit par impulsion. On a un cœur, alors eh bien, on réagit. face à la douleur, face à l'échec. On voudrait que ça change. On voudrait que ma vie, elle change. Regardez la Bible, elle dit que ce sont les plus vieux qui sont partis les premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas envie de changer. Et c'est souvent comme ça. Quand on a toute une vie derrière nous, on se dit, mais il y a tellement de choses là, qu'est-ce qu'il y a encore de bon en moi, en fait ? C'est ça. Et puis, on a déjà tellement prévu de choses que, oui. Et les plus jeunes, eux, ils sont restés en se disant, peut-être que il y a peut-être quelque chose à passer outre. Vous savez, on est plus malin des fois quand on est jeune. On a peut-être plus de répondants, mais on a moins d'expérience. Et eux, peut-être, se sont dit, il y a peut-être quelque chose à sortir de là. On a besoin de changer, que l'on soit âgé ou que l'on soit jeune. On connaît les versets de la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible ? Par exemple, dans Marc, au chapitre 9, verset 23, allez, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai ou pas ? Et pourtant, Seigneur, change mon cœur. Je crois, mais j'ai l'impression que tout n'est pas possible. Et puis, dans Luc, au chapitre 1, verset 37, l'ange vient vers Marie, et qu'est-ce qu'elle répond, Marie ? Elle dit, avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Ça, je le crois. Vous le croyez ? Moi, je crois qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander et penser. Ça, je le crois. Mais est-ce que je le vois dans ma vie ? Est-ce que toi, tu le vois dans ta vie ? Je sais qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais ça fait tellement longtemps que je prie pour que ces choses elles, soient là dans ma vie. Et ça ne change pas. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, amen. » Mais j'en suis là aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui peut toucher. J'aimerais bien que ça change. Et puis, encore dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 10, il est écrit, c'est quand je suis faible que je suis fort. J'aime bien rester fort tout le temps. Être faible, des fois, c'est humiliant. Et pourtant, Seigneur, change mon cœur. J'ai besoin de penser comme toi, d'agir comme toi, de parler comme toi. J'ai besoin de réagir comme toi. J'ai besoin, Seigneur, j'ai pris des engagements, je veux les tenir, Seigneur. Je fais cet engagement Seigneur, j'aimerais bien toujours me rappeler qu'est-ce que tu ferais à ma place, mais change mon cœur quand je me trouve dans telle ou telle situation, que je connais ce que Dieu dit et que je vois comme il agit ou il réagit. J'ai besoin que ma vie change. Et ma prière, elle est toute simple. Seigneur, aide-moi. Help. Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous ? Il veut le meilleur. Dis-le à ton voisin, Dieu veut le meilleur pour toi. Ça, c'est important. Que vous puissiez au moins repartir avec cette phrase dans votre cœur, que Dieu veut le meilleur pour nous. Et ça, c'est un verset dans Romains, chapitre 12, et au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans Parole de vie, je vais vous lire ce passage, il est écrit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne, offrez-lui votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer. En vous donnant une intelligence nouvelle ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour nous. Amen. C'est un verset qui me parle du meilleur. Dieu veut le meilleur pour moi. Changer ma vie, c'est pas facile, mais changer ma vie, c'est nécessaire. Parce que Dieu ne pourra pas me donner le meilleur si ma vie n'est pas changée, si je n'ai pas un renouvellement dans ma façon de penser, d'agir ou de parler. Dieu me le meilleur. Un entrepreneur sera toujours un entrepreneur. Un maçon, il sera certainement toujours un maçon. Un instituteur, une infirmière, elle sera toujours peut-être une infirmière. Un comptable sera toujours un comptable. Paul, lui, il a toujours été un faiseur de tentes. C'est écrit dans la Bible. Mais il est nécessaire que nous ayons à cœur de changer pour le meilleur que Dieu veut pour moi. Amen. J'ai besoin de ce changement. Le meilleur, c'est ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Et on dit amen. Et je m'en vais. Merci Seigneur. Non, on ne s'arrêtera pas là. Mais si vous s'arrêtez là, que vous puissiez repartir avec cette chose dans votre cœur. Dieu veut le meilleur pour nous et ça passe par un renouvellement de mon intelligence. Est-ce que vous croyez à la possibilité que votre vie, elle puisse changer? Est-ce que vous croyez que vous pouvez changer de vie? Ça sera plus direct. Amen. Est-ce que vous voulez un changement dans votre vie? Les anciens, face à la femme adultère, ils sont partis. Ils n'ont pas voulu de changement. Les jeunes se sont dit, peut-être qu'on va pouvoir changer, mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous ne voulez pas changer, vous ne changerez pas. Et vous aurez beau dire, beau prier, vous mettre à genoux, jeûner, intercéder, dire, Seigneur, change mon cœur, il ne le fera pas. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Dieu vous a déjà donné un cœur nouveau, alors il n'a pas besoin de le changer. Un jour, on a dit, Seigneur, change ma vie. Et le Seigneur a dit, je te donne un cœur nouveau. J'ai un cœur nouveau. On ne va pas recommencer à dire au Seigneur, écoute, il est déjà fichu ton cœur. Non, non, le cœur du Seigneur en moi, il est nouveau. Alors ne demande pas à Dieu de changer ton cœur si tu ne veux pas changer. Mais si tu veux changer, si c'est le désir de ta vie de changer, alors Dieu va t'aider à changer. Amen. C'est merveilleux ces choses. Alléluia. Si vous dites, je crois que je ne peux pas changer, et que vous ne faites rien pour changer, vous ne changerez pas. Merci. Mais si vous voulez changer, si ce matin vous prenez la décision de changer, alors demandez à Dieu son aide. Moi, je prie pour que ça soit votre désir. Ce message, je l'ai fait parce qu'il faut que mon cœur change. Et je sais que Paul, il a prié pour que mon cœur change. Je sais que le Saint-Esprit intercède auprès du Père pour moi. Quand je parle les langues du ciel, je ne sais pas ce que je dis. Mais certainement qu'il y a cette prière. Tu vois, j'ai envie de changer, Seigneur, c'est mon désir. Alors je me décide à changer, mais aide-moi et Dieu fait le reste. Alléluia. Dieu veut transformer votre vie. Il vous donne le meilleur. Alors, écoutez, il y a quelques exemples dans la Bible. La Bible, elle nous parle d'un homme qui s'appelle Élie et d'une femme dont on ne sait pas le nom, qui est une cananéenne. Et un jour, cette femme, elle est face à un dilemme. Face au meilleur ou face au pire? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Le meilleur. Le meilleur pour elle, c'était... elle s'est retrouvée, il y avait la famine. Il restait juste un petit peu de farine et de l'eau. Il y avait la famine... et la sécheresse. Il reste un tout petit peu de farine et de l'eau juste pour préparer un gâteau pour son fils. Elle se serait privée. Et quand Élie vient, il vient vers cette femme et lui dit, « Femme, prépare-moi un petit gâteau avec ton huile et ton eau. » Et la femme, elle dit, « Mais non. » Enfin, l'eau avec l'huile. Donc, la femme lui dit, « Mais non, je vais le préparer pour mon fils. Ça lui donnera quelques jours pour vivre. C'est ça le meilleur. Le pire, c'est qu'on va mourir. » Et Élie lui dit, « Non, le meilleur, c'est que tu me donnes le gâteau. D'abord, tu me donnes le gâteau et après, tu feras un gâteau pour mon fils. Change mon cœur, Seigneur. » Quel dilemme! Cette femme, elle a cru que Dieu pouvait faire un miracle. Elle a préparé un gâteau pour Élie. Elle n'a jamais manqué de gâteau et d'huile pendant tous les moments de famine. Il y a une femme qui s'appelle Rahab dans la Bible. Cette femme, c'est une prostituée. Elle habite sur la muraille de la ville de Jéricho, à l'écart. Hein. Ça, les gens pouvaient venir la voir en cachette. Elle était là, à l'écart, et elle entend parler que le peuple d'Israël allait envahir le pays de Canaan. Elle est face à un dilemme. Les gens, ben, finalement, ils viennent les espions, ils viennent chez elle, et elle les cache. Et il y a le roi qui envoie des soldats chez elle pour lui dire « Les espions sont venus chez toi, on les a vus rentrer chez toi. Hein. » Il y a des gens qui regardent hein, tout autour. « On les a vus rentrer chez toi. Dis-nous où ils sont. » Et cette femme, elle est face à un dilemme. Soit dire « Les espions, ils sont là, je les ai cachés. » Soit mentir. Et dire « Ils sont déjà partis. » Qu'est-ce que vous auriez fait? Si elle mentait et que son mensonge était découvert, elle mourrait. Si elle disait, ben, elle prenait position pour les espions d'Israël, et puis ben, qu'on les découvre, elle mourrait. Mais d'un autre côté, ben, elle trahissait. Ben oui, voilà. C'est pas simple, hein. Change mon cœur, Seigneur. Avec Dieu, le meilleur, il est devant nous. Toujours. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et le meilleur sera pour vous. Seigneur, transformez-moi. Renouvelle mon intelligence. J'ai besoin de saisir cette vie meilleure que tu me donnes. Décidons de changer de vie. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath ? David, un jour, il a été face à un géant. Et David, il a décidé de combattre le géant et il l'a tué. Assez incroyable. Et parce que David a pris la décision de changer de vie, parce que David, c'était qui ? C'était un berger. Et il a eu cette promesse, enfin, le prophète était venu, Samuel, en disant qu'il serait finalement le futur roi d'Israël. Il a dit, je décide de changer de vie. Et parce que David a pris la décision de changer de vie, ça a eu un impact en Israël. Un tel impact que, un, David est devenu roi, et deux, Israël est devenu une grande nation. Parce qu'un homme a décidé de changer de vie. Qui est David ? David, c'est un berger, un petit berger de quelques brebis, parce que les frères, ils lui disent bien, hein, avec ton pauvre petit troupeau. Hein. David, c'est un garçon qui est peu considéré dans sa famille, juste bon à garder les moutons. Même pas invité quand un illustre prophète qui s'appelle Samuel vient dans la maison. Lui, on l'a mis à l'écart, le bâtard. Parce que c'est un petit peu ça que dit son père. C'est un bâtard. Je ne sais pas comment il est né, David. Mais on lui fait bien rappeler ces choses. Il est méprisé par ses frères. Il est juste bon à apporter le repas à ses frères, alors que lui, c'est un gaillard, David. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'ours et du lion. Mais il est juste bon à ça. Mais David, le berger, est devenu le plus grand roi d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un changement, parce qu'il y a eu une transformation. Il a tué le géant, il est devenu le roi d'Israël. Et s'il y a des géants qui se dressent devant vous, s'il y a des géants qui se dressent devant nous, des géants qui nous rabaissent, ces géants qui nous humilient, c'est des géants qui nous déstabilisent, ces géants qui nous font peur, et que vous décidez que ça change, alors il en sera comme Goliath. Tous ces géants y tomberont devant vous. Amen. Moi, je le crois. Et comme David, votre vie, elle sera transformée. Pourquoi ? Parce que Dieu veut le meilleur pour vous. Amen. Dieu, c'est le Dieu de la rédemption. Dieu, c'est le Dieu de la transformation. Alléluia. On peut lui faire confiance. Quelle grâce. On est enfant de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits. En tant qu'enfant, Dieu est mon Père. Et il m'a donné autorité sur les géants. sur tous les géants qui se dressent devant moi. Il m'a donné autorité. Pourquoi ? Parce qu'il les a déjà vaincus. Amen. Mais ma responsabilité, amen, c'est de leur couper la tête. Ma responsabilité, c'est de courir pour les abattre, parce que Dieu ne le fera pas à ma place. Lui, il a déjà vaincu. Il les a déjà vaincus, mais il me dit, allez, maintenant, coupe-leur la tête. On est rempli de force. Amen. On est rempli d'autorité. On est rempli de puissance. On est rempli de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. On a la force de Dieu. Amen. Dieu est avec nous. Dieu combat pour nous. Mais comme David, je dois courir pour abattre mon géant. Amen. Et pour cela, help, Seigneur, help. Ça me fait penser à cette chanson des Beatles. Non, c'est une vieille chanson, mais c'est pas grave. Help, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'un changement de vie. Et ce changement, où est-ce qu'il le trouve, David ? Où est-ce que David a trouvé cette force de changer ? En Dieu seul, dans la présence de Dieu. C'est en Dieu que l'on peut changer. C'est en Dieu que je suis influencé à changer. La source du changement de vie pour David, elle se trouve en Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 37. David, il est là, il s'est engagé à tuer le géant et on lui dit, et il parle à Saül et il dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours » me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Dans Romains, pardon, chapitre 8 et au verset 28, il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Mais c'est surtout le verset 29 qui m'intéresse aujourd'hui. Car il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. » Amen. Dieu veut qu'il y ait un changement dans ma vie, dans mon intelligence. Je suis destiné à être semblable à l'image de son fils. Amen. Paul prie pour les Galates et il dit, dans Galates 4, 19, je vais vous le lire, « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Oh. C'est une mine d'or, cette parole. Hein. Moi, ça m'épate tout le temps. Tout ce qu'il y a écrit, et des fois, on n'y fait pas attention, puis d'un seul coup, pam, ça s'éclaire. Il y a des choses qui nous sautent, qui nous reviennent à l'esprit, jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformé en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Je suis transformé. Il y a un changement, une transformation dans ma vie. Ce que Dieu a fait avec David, ce que Dieu a fait avec Paul, ce tueur à gages, c'est un tueur à gages, Paul. On le payait pour aller tuer, pour livrer eh bien, tous ces chrétiens. Dieu le fera aussi dans ta vie. Amen. Tu veux changer ? Tu peux changer. Pourquoi ? Parce que tu connais la source du changement de vie. Et cette source est Jésus. Cette source est Jésus. Cette source est Jésus. Jésus, 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 toujours Jésus. Je me rappelle toujours ce film qu'on avait vu avec l'église, ces gens qui étaient avec Reinhard Bunke, je ne sais plus, au Nigeria. Et à un moment donné, cette foule de plus d'un million de personnes, elle s'est mise à crier... Jésus, moi j'ai les poils qui se sont levés. Et pourtant, c'était qu'une cassette hein, à cette époque-là. C'était qu'une cassette. Mais ça m'a saisi. Jésus, lui seul, peut changer ta vie. C'est la source de notre transformation. Amen. Alléluia. Alors, on va revenir à Jésus, à David. Cette histoire, vous pouvez la lire dans 1 Samuel 17. Je ne vais pas vous la lire ce matin. Mais David, il avait deux motivations pour changer de vie. Et je pense qu'il est bon que ces motivations, elles soient dans notre vie si on désire changer de vie. Si on le veut. Si on ne veut pas changer de vie, ma vie, elle ne changera pas. Mais si j'ai le désir de changer de vie, si je veux que ma vie change, alors elle sera changée. La première motivation, c'est que David, c'était un passionné. Lui, il était passionné, il était amoureux de Dieu. Et la deuxième motivation, c'est que Il y avait une carotte devant lui et il voulait la carotte aussi. C'est-à-dire qu'il voulait la récompense. Et ça, c'est très important aussi. On a l'impression, oui, mais non, on n'a pas besoin de ça, ce n'est pas vrai. On a besoin que Dieu agisse dans notre vie. David, il était passionné, il était amoureux de Dieu. Dans le psaume 84 et au verset 10, il dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Il faut être amoureux, hein. Psaume 59, verset 17. « Et moi, je chanterai ta force, David, dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car mon Dieu tout bon est ma haute retraite. » Il est amoureux, David. Il est amoureux, il est passionné de son Dieu. C'est ça qui le passionne. C'est qui te passionne? Tes enfants, ton travail, ta famille? C'est bon, toutes ces choses-là. Mais David, lui, il était passionné par Dieu. Il aimait Dieu. C'était vraiment quelqu'un de passionné. Dans le psaume 42, on va le lire. J'aime beaucoup ce psaume. Psaume 42. Ah non, c'est Corée. C'est les fils de Corée. C'est pas David. Mais il aurait pu dire la même chose. Je m'excuse. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Toutes ces choses. Oh, je soupire. Est-ce que vous soupirez après Dieu? Est-ce que c'est votre désir? Viens Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, viens changer ma vie. Aide-moi, je veux changer de vie. Psaume 24, 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, comment devenir passionné? C'est ça qui est important. Jacques s'écrit dans la Bible, c'est ça. Il n'y a rien, Dieu ne nous cache rien. Jacques chapitre 1 et au verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Comment devenir passionné? 1. En écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire que je vais apprendre à connaître Jésus. Je vais apprendre à connaître sa façon d'agir, sa façon de prier, sa façon de parler, sa communion avec le Père. Et la deuxième chose, tenir sa langue en bride. C'est les deux choses qui nous aident à être passionnés. Moi, c'est une des choses que j'ai vécues, que je peux dire dans ma vie. Souvent, il y a des chrétiens qui viennent, des personnes qui viennent vous parler et qui vous disent « Je suis épuisé, je suis sans vie, c'est, je sais pas, ma vie chrétienne, il n'y a plus rien. » Le constat, c'est que ces deux principes, ou un des deux, n'a pas été respecté. Je lis plus la Bible, je perds le sens pratique de la foi. Parce que quand je ne lis plus la Bible, je perds le sens pratique de la foi. Je ne relève plus les défis que Dieu amène dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je commence à murmurer. Je commence à être négatif. Et même parfois, j'arrive à calomnier en disant « Ouais, Dieu, enfin, vous voyez, hein, je ne veux pas aller jusque-là. » Mais je suis heureux dans toutes mes activités quand je redeviens amoureux de Jésus. Alléluia. C'est simple. Et la deuxième chose qui motivait Jésus, si la première c'est être passionné, la deuxième chose c'est la récompense. Enfin, qui motivait David, c'est la récompense. Si je prends dans 1 Samuel, au chapitre 17, au verset 25, et ce passage, il est écrit une fois, mais trois fois il se passe dans le chapitre 17. David, il est là, il est sur la place du combat, il y a Goliath qui est là au milieu, qui nargue le peuple d'Israël. Et David, il entend les soldats parler et disent « Si quelqu'un le tue, ce géant, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. » Et David, il entend ça. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 26 ? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Il vient de l'entendre, hein. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera le peuple de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Un, il l'entend. Deux, il pose la question. Et après, vous verrez un petit peu plus loin, il revient après que ses frères, un petit peu, en lui disant, allez, tu t'en vas. Il retourne vers les soldats, dit, qu'est-ce qui va se passer si je tue le Goliath? Pourquoi David, il a posé trois fois cette question, ou il a entendu trois fois ce qu'on lui a dit? Parce que David, il recherchait le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi. Tu as une opportunité de pouvoir changer de vie. Et si tu le veux, si c'est ton désir aujourd'hui, alors décide de changer de vie. Abats ton géant. Tu auras l'opportunité de réussir dans ta vie, de réussir un bon mariage, tu apporteras la bénédiction dans ta famille, tu apporteras la bénédiction autour de toi. Vous imaginez David ? On lui dit, tu seras comblé de richesses. On lui dit, en plus, tu auras la plus belle fille du royaume, la fille du roi. Et en plus, bah, tu n'auras même pas d'impôts à payer. Il n'y aurait plus de gilets jaunes, hein. David, c'est quelqu'un de très pratique. Et un chrétien, c'est quelqu'un de pratique. On ne va pas cracher dans la soupe, hein. Si Dieu nous promet de nous bénir, merci Seigneur. Je peux dire, mais non Seigneur, donne aux autres. Ah, je l'ai fait moi. Ah, je l'ai fait bien des fois. Hein. Début que j'étais chrétien, mais Seigneur, occupe-toi des autres. Je pense qu'à un moment donné, Dieu il a dû dire, j'en ai marre. Je lui donne et il ne veut rien. Alors finalement, il a stoppé. Et puis il a donné aux autres. Et puis après, j'étais là en disant, « Seigneur, pourquoi les autres, ils ont, puis pas moi ?» Et le Seigneur, il m'a dit, « Mais, hein, voyez ?» Des possibilités vont s'offrir dans ta vie. Des portes vont s'ouvrir. Un meilleur mariage, plus fort. Une belle fiancée, un beau gars, la paix, la joie. Et ça, dans la vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas. Parce que la vie, elle est là. On ne va pas l'enlever. Dieu veut que ta vie, elle change. Et voilà comment il s'y prend. Et c'est bientôt fini. Dieu va permettre la douleur dans ta vie. Dieu va permettre l'échec. Dieu va permettre le désespoir, la maladie, les problèmes. Et toutes ces choses, ça nous incite à changer de vie. J'en ai marre de cette vie que j'ai. J'en ai marre. David, il dit, c'est marrant, il est terrible ce David. David, il se retrouve vers le roi Saül. Et quand Saül, il dit à David, mais t'es encore trop jeune pour aller combattre. Et David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand un lion venait, je sautais sur lui, je le tuais. Lui, il parle au passé. Hein. Et ça m'a frappé. Je faisais ceci, je faisais cela, voilà comment j'étais. Et aujourd'hui, je suis futur roi d'Israël. Ça, c'était avant. Vous voyez, David, lui, il a décidé de changer de vie. Il a dit, je faisais ceci, je faisais cela, je faisais cela. J'étais addict à cela, j'avais un mauvais caractère, j'étais toujours en train de murmurer. J'étais ceci, j'étais cela, mais maintenant, je décide de changer de vie. C'est ce qu'il a dit, David. J'étais avant. Maintenant, voilà ce que je veux être. Alléluia. Je serai le gendre du roi. Ouh ! Une bénédiction pour ma famille. J'aurai une réussite dans ma vie. Si tu choisis de changer de vie, écoute ce que Dieu te dit. Dans Deutéronome, au chapitre 28, et au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de géant qui se mettra devant toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu décideras de changer de vie. Tu seras béni dans la ville. Dieu va te bénir. Ne te casse pas la tête si tu, pour ton travail ou quoi que ce soit, Dieu va te bénir. Tu seras béni dans les champs. Ça veut dire partout où tu iras, il y aura une bénédiction. Le fruit de tes entrailles, tes gosses, ta prospérité, elle sera bénie. Le fruit de ton sol, de tes troupeaux, les portées de ton gros, ton menu détail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huse seront bénies. Elles seront remplies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Amen. Une bénédiction continuelle. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Tellement ils auront peur. Parce que je décide de changer de vie. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Oh, je prends, Seigneur. Ah, moi, je prends. Je ne vais pas le laisser à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez le prendre aussi. Et c'est ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marcheras dans tes voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Vous n'avez pas envie de ça? Moi, j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de le prendre. Seigneur, change ma vie. Aide-moi, Seigneur. Il faut que je le saisisse. Si vous voulez que votre vie change, Dieu vous place devant un choix. J'ai mis devant toi la bénédiction. J'ai mis devant toi la malédiction. J'ai mis devant toi la vie. J'ai mis devant toi la mort. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, choisis la vie. Amen. Afin que tu vives et que tu sois béni. Je choisis. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. C'est un choix que tu peux prendre et que tu peux refuser aussi. Un jour, il y a un jeune homme, on appelle ça l'histoire du jeune homme riche. Il vient vers Jésus et il dit, maître, bon maître. Il n'a pas dit maître, il a dit bon maître. Que faut-il pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, tu feras ceci, cela. Et lui, il dit, j'ai déjà tout fait. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Il est écrit que Jésus l'aima. Il voit cet homme, il l'aime et il lui parle. C'est ce qu'a vu Jésus. Il a vu cet homme, il l'a aimé, il l'a parlé et il l'a aimé. Et la même chose se passe pour nous. Dieu nous voit, il nous parle, il nous aime, mais c'est à moi de choisir. Le Seigneur dit à cet homme, tu veux la vie éternelle, une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Maintenant, je le sais, mais à sa place. Qu'est-ce que j'aurais fait? Seigneur, change mon cœur. Lui, il n'a pas changé, il n'a pas voulu le meilleur. Il est reparti, tout triste, dit la parole de Dieu. C'est tragique de ne pas vouloir changer de vie. C'est vraiment tragique. Et ce que je voudrais dire, et c'est le Seigneur qui nous le montre, c'est que si on ne se sent pas désespéré, on n'a pas envie de changer pour le meilleur. On n'a pas envie de changer pour la vie éternelle. Lui, il voulait hériter la vie éternelle, mais il était bien. Je ne me sens pas désespéré, finalement, ce n'est pas grave que je ne l'ai pas. Nos erreurs, nos échecs, nos déceptions, elles nous amènent à changer. Et je vais demander au groupe de louange de s'approcher. La Bible, elle nous parle d'un homme qui s'appelle Pierre. Pierre, un jour, il s'est trouvé face, eh bien, c'est pas facile, hein? Il s'est trouvé face à une position où il a renié son Seigneur par 3 fois. Lui, il avait dit, moi, jamais je te renierai. J'ai pas besoin de changer de vie. Hein. Eux, les autres, oui, mais pas moi. Et puis face, eh bien, c'est telle et telle situation, par 3 fois, il a renié son Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Pierre a eu du remords. Il a eu du remords dans son cœur. Et ça l'a amené à changer de vie. Il a dit, Seigneur, mais c'est pas possible que j'ai fait ça. Je t'ai renié alors que moi, j'avais dit que j'irais jusqu'au bout avec toi. Je t'ai renié, je t'ai mis de côté. J'ai fait comme si je te connaissais pas. Seigneur, change mon cœur. Change ma vie. J'ai besoin que ma vie change et je veux que ma vie change. Parce qu'il y a des promesses qui ont été données sur moi. Alors je décide aujourd'hui que ma vie change. Et vous auriez vu Pierre à la résurrection. Un jour, Pierre, il se retrouve face à Jésus. Ils sont là, il y a eu un petit barbecue tranquille, c'était cool. Pierre était content et puis Jésus dit, viens ici. Et Pierre, à ce moment-là, tout est remonté. Hein. Alors là, je pense que tout est remonté dans. Waouh! Et Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Et Jésus continue et il revient à la charge et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Et une troisième fois, Jésus revient à la charge et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Pourquoi Jésus y a dit ça? Parce que le cœur de Pierre est devenu un cœur de chair. Parce que le cœur de Pierre a été changé. Parce que Pierre a décidé de changer. Alors, Dieu a pu l'utiliser. C'est toi qui décides si tu veux ou non de changer. On a chanté ce chant tout à l'heure. Le sang de Jésus. Uniquement par le sang de Jésus. Uniquement par le sang de Jésus. Seigneur, change ma vie. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que vous voulez que Dieu change votre vie? Est-ce que vous décidez que maintenant, votre vie va changer? Dieu ne changera pas ta vie si tu ne décides pas de changer de vie. Dieu ne fera jamais les choses que tu peux faire parce qu'il a déjà tout accompli. Dieu ne coupera jamais la tête des géants qui sont dans ma vie. Dieu ne courra jamais sur le combat, sur le champ de bataille parce qu'il l'a déjà accompli à la croix. Mais il va me donner ce qui est nécessaire, sa puissance, son autorité. Sa sagesse, son onction, comme il a donné la force à la fronde de David pour tuer le Goliath, juste là, là. Dieu le fera pour toi. Il te donnera sa force, sa puissance si ce matin ou dans la semaine qui vient, tu décides de changer. Tu prends cette position en disant, moi je vais être passionné de Dieu. Je vais être motivé. Je sais qu'il y a des récompenses et je les veux pour moi. Alors Dieu agit dans ta vie. Dieu te change, il t'aide. Et tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur va dire, allez, ensemble, on va faire des choses extraordinaires. Ensemble, on va marcher. Ensemble, on va travailler. Ensemble, eh bien, moi, je vais t'aider. Et tu verras que ta vie va changer. Vous le croyez? Moi, je le crois. Vous en êtes sûr? Moi, j'en suis convaincu. Vous le voulez? C'est toi qui décides. Si tu le veux ce matin, Dieu le veut. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Ouais.